Merci Gilles pour cette conférence absolument passionnante et très riche, très documentée. Personnellement, moi, je suis frappé par deux choses. D'une part, par une caractéristique de l'œuvre d'Anot qui me rappelle quelque chose dans la coexistence du vrai, du faux, ou de la mémoire et de l'oubli, de ce qu'on appelait il y a une quinzaine d'années peut-être le postmoderne, des choses comme ça qui n'a peut-être plus tellement de pertinence aujourd'hui, je ne sais pas très bien, mais c'est dans le roman, cette idée de postmoderne était très, très, très importante il y a quelques années. Et la deuxième chose, c'est justement dans la coexistence de l'oubli et de ce qui, de ce dont on se souvient, de la mémoire, c'est les deux figures, ou plusieurs figures, mais en tout cas la coexistence de figures dont on se souvient, comme très bien, comme Owen par exemple, et des figures complètement oubliées, comme Alcan, qui a été un compositeur absolument extraordinaire, dont les pièces très brèves, parce qu'il en a composé beaucoup de pièces de quelques secondes parfois, sont extraordinaires, absolument extraordinaires à entendre. Et c'est vrai que voir une mention de quelqu'un dont on ne se souvient absolument pas, c'est assez...
Absolument effacé par Berlioz, parce que Berlioz a fait assez de bruit et un personnage assez... sorti d'une bande dessinée en quelque sorte, qui a laissé des mémoires alors qu'Alcan n'en a pas laissé. Et assez curieusement, il meurt sous le poids de sa bibliothèque. Donc en quelque sorte, il meurt sous le poids des livres écrits par des révisionnistes comme des historiens en quelque sorte. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai, c'est une personnalité complètement oubliée. Cependant, nous avons au Conservatoire de Caen, en la personne de Constance Himmelfarb, une des spécialistes d'Alcan. Voilà, donc Alcan n'est pas complètement oublié à Caen.
D'accord, alors j'ai des questions, mais on va peut-être se tourner vers le public et poser, si le public a des questions à
te poser. Est-ce que tu peux nous rappeler la date des romans, parce que je n'ai pas... À laquelle ils ont été publiés, les romans de Anot? Parce qu'en fait, plus précisément, au sein du postmodernisme, c'est la métafiction historiographique qui correspond directement à ce mélange-là. Mmh. Mais ça date des années 90, en fait. C'est devenu commun. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est devenu très commun. Au début, c'était avant-gardiste. Et c'est vrai que ça a vraiment envahi tout le roman presque classique aujourd'hui. C'est le mélange, vous savez, c'est le mélange d'autoréflexivité, en fait, hein, l'écriture. On montre qu'il y a une écriture, qu'il y a une fabrication à l'œuvre. Et en même temps, on fait des renvois à des personnages réels. D'accord, c'est ce mélange-là. C'est exactement ce que
tu
as décrit.
C'est ce que fait
Paet. Ah bah oui, bien sûr.
C'est Linda Hatch.
Oui.
C'est la théorie de Linda Hatch, parle de historiographic metafiction.
Et qui parle aussi de l'adaptation du livre et d'opéra.
Je ne sais pas si ça a encore beaucoup de pertinence aujourd'hui. Moi personnellement, je n'en entends pas beaucoup parler.
C'est-à-dire, je pense que le concept est devenu si commun, tu vois, il est devenu normal en fait. Donc on n'en parle plus comme on a pu en parler parce que c'est.
On a même des théoriciens qui parlent de post-post.
Oui, tout à fait, ouais.
Jusqu'à ce qu'on retrouve un autre terme parce que ça devient ridicule.
Et sinon, aussi par rapport à ta liste de romans, là je pensais à un autre, mais qui ne fait pas figurer Owen directement, mais qui est inspiré, que tu connais sûrement, c'est The Strangest Child. Ça, c'est la même. Je pensais à ça en t'écoutant, et qui est intéressant parce que justement, il y a une interrogation sur la façon dont la mémoire se transmet de génération en génération, puisqu'on suit, on a un personnage, on a un poète, on a un soldat poète au centre du roman qui va suivre l'évolution de sa réputation et de
sa mémoire. Tout à fait.
Mais il ne fait pas apparaître, il n'y a pas Owen directement, c'est en filigrane, c'est pas directement Owen comme dans les autres que tu as cités, où il apparaît.
C'est Hollinghurst qui a écrit ça.
Oui, c'est ça.
On peut considérer effectivement que ça s'inscrit dans le postmodernisme, dans la mesure où il y a une remise en question des grands discours patriotiques, et pour se concentrer davantage sur l'humain et la boucherie que ça représentait finalement.
D'ailleurs, c'est un débat qui a continué pour les cérémonies de ce que j'ai pu en voir en Grande-Bretagne, où les déclarations de, évidemment, notre ancien Premier ministre David. Il s'appelait comment ? David Cameron, voilà. David Cameron, qui lui était dans cette optique de sacrifice, etc., dans l'optique que développe Bliss, mais Bliss ne pouvait pas faire autrement. En quelque sorte, il n'avait pas nié la valeur de son sacrifice. Et puis, bon, il appartient à une génération qui est la première génération d'une guerre, qui est la première grande guerre, qui est celle qui va mener aux autres, en quelque sorte. Puisque en Europe, il n'y a pas, par la guerre de 70, il n'y a pas de guerre, après la guerre de 30 ans, il n'y a pas de guerre, pas de conflit de cette envergure. Donc il y a ça, et puis il y a les pacifistes qui, eux, continuent à penser que, comme Sassoon, Owen, etc., comme Foster, que la guerre, en fait, ça n'a servi à rien, que c'est une boucherie, etc. Et eux, pour lesquels la notion de sacrifice, c'est le sacrifice qu'on trouve dans la parabole, c'est-à-dire une tuerie, mais pas un sacrifice qui a servi à une cause. Et ça, ça continue à être le discours qu'on peut retrouver partout dans la presse, comme quoi les choses ne sont pas calmées et continueront sur ce même thème pendant longtemps.
J'avais une autre petite question aussi. C'est toujours à propos du roman d'un des romans de Hanot. Tu disais le personnage, j'ai bien compris, le personnage du détective se démène en quelque sorte dans une espèce d'amnésie collective, oui, etc. Mais en même temps, il y a abondance de commémorations.
Oui, abondance de monuments, mais des monuments dont lui seul connaît le sens.
Ah d'accord.
En quelque sorte.
Malgré le... Parce qu'on est quand même dans une décennie ou plus, un demi-siècle au moins de commémoration, ça n'arrête pas quand même. Pas,
oui, oui.
Semble-t-il.
Oui, mais bah, bon...
Le principe de la commémoration, on vit avec ça depuis, je sais pas, 20 ans, peut-être plus en Normandie qu'ailleurs, mais...
Oui, ah, ben non, on est quand même... mais tu sais, si tu poses la question à tes étudiants, combien ont été mémoriales?
Bah oui, mais en fait, le collège est dans l'âne, je suis sûre. Le collège, l'école doit les emmener. Mais
je remarque qu'on a commencé au mémorial par regarder la guerre de le deuxième conflit mondial, puisque c'était quand même in vivo ici. Et puis progressivement, on a ouvert des salles qui ont été sur les causes de la guerre de 40, et on est arrivé maintenant à la Grande Guerre. Donc il y a cet effort de mémoire qui est fait. Ouais, c'est certes la mémoire, mais apparemment la vision qu'a un autre de la Belgique, ça ressemble à certaines pages les plus choisies et les plus venimeuses que Baudelaire a pu écrire sur la Belgique. Hein. Bon, je vous y renvoie.
Il y a des passages très très poétiques quand même. Moi j'ai, oui, lu ça derrière la colline, oui, là, et, oui, et c'est vrai que dans ce chapitre où après la bataille le personnage principal marche seul dans la,
oui,
nuit,
tout à fait,
dans une zone qui n'apparaît pas sur les cartes, oui, et il découvre ce bâtiment qu'il appelle le monstre, oui, une espèce d'immense construction pharaonesque, où il retrouve ses camarades qui lui disent, ouais, « Viens, nous t'attendions ». Enfin, ouais, c'est « a strange meeting ».
Tout à fait. Hein. Ouais, ouais,
c'est, ouais, une espèce de voix d'outre-tombe, comme ça, ouais, de retrouvailles. Alors, tu as utilisé l'adjectif onirique, qui, ouais, à mon avis, est plus juste que le réalisme magique, mmh, parce que, mmh, le réalisme magique, en général, ça s'inscrit dans un contexte politique, colonial, c'est présent de la première à la dernière page.
Pas seulement.
Ça me fait penser plutôt à Garcia Marquez.
C'est, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai lu de la critique, c'est un réalisme magique qui est propre à la Belgique francophone. Et j'ai oublié...
C'est discutable, ça.
Non, mais je n'ai pas été chercher plus loin, moi, dans le réalisme magique.
Tu as raison de parler de passage onirique. Ça me semble plus tenir du rêve que d'autre chose.
Ce qui est sensationnel dans ce roman aussi, c'est les poèmes que Hanot écrit. Et celui qui est traduit d'ailleurs derrière la colline, où on retrouve à la fois des éléments qui viennent directement de Strange, de Spring Offensive de Owen et de Strange Meeting, du vocabulaire. Et je lisais encore ce matin à 5h, excusez-moi, de citer ma vie personnelle, mais je lisais un passage à la page 150 de Birdsong de Fox. Il y a The Shrill Demented. Et là aussi, je pense que, je ne sais pas si c'est voulu ou c'est pas voulu, mais c'est directement piqué à Owen dans Anthem for Jubilee, The Shrill Demented Choirs. Donc, dans ce poème. Il y a une imprégnation. Je signale que Owen est au A-Levels depuis les années 60. Ouais. Donc, c'est devenu quelqu'un qui est tout à fait entre les mains sans ouais. Antenne. C'est pas étonnant. Donc,
une anecdote justement à propos de Birdsong. Moi, j'ai lu que quand le roman est paru, la critique n'y a pas prêté tellement d'attention, mais que depuis. Il est entré au programme scolaire, effectivement, lycées en Grande-Bretagne.
Ce qui était assez curieux, c'est de la critique. Quand on regarde le blurb, c'est tout ce qui est derrière en quatrième page, c'est le côté érotique du roman dans la première partie que les gens ont apprécié, en quelque sorte.
S'ils l'ont mis au programme des lycées, c'est peut-être pour autre chose.
Je pense que c'est pour la deuxième partie, toute cette évocation des mineurs. C'est vrai que moi, je l'ai lu au moment où on a fait ces colloques avec Jennifer Kigor sur le Fallen and Beyond Fallen. J'avais beaucoup apprécié. Et en le relisant, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient insoutenables. Et d'ailleurs, il y a en exergue, il y a une citation de Rabindranath Tagore où il parle de unsurpassable. D'ailleurs, je ne savais pas que ça pouvait exister comme. Je suis peut-être fautif dans ces citations. Mais quelque chose qui est sans commune mesure. Et c'est exactement ça. Des questions? Oui.
Je ne sais pas si j'ai mal compris, mais vous avez dit que Owen a fait la guerre civile en Espagne.
Non. C'est Auden. Auden, le poète qui a été le mentor de Britain entre 36 et 39, qui est parti comme ambulancier en Espagne.
Mais il n'était pas pacifiste du tout.
Alors, est-ce que l'ambulancier est pacifiste? Je ne pense pas qu'Auden était spécialement un va-t-en-guerre, mais il avait envie de se mesurer à ce que c'était que la chose, parce que je parlais d'ordre de lit de virilité, tous ces romanciers se posent la question, est-ce que je dois agir ou pas agir? Dans son poème Septembre, 1er septembre 1939, Auden dit qu'un poème ne peut pas changer la vie. Hein. Tu me corriges, Bertrand. Donc il y a cette volonté d'être un intellectuel engagé jusqu'à l'engagement le plus total. Et puis d'autre part, Auden avait fait un voyage avec Isherwood, mais ils sont partis en Chine, en Corée. Ils ont vu l'affrontement de Mao Tse-tung et des forces nationalistes. De très près, donc il avait déjà eu le baptême du feu. Et puis c'est un intellectuel de gauche, donc il pouvait défendre que la République. C'est des gens comme Orwell, Hommage à Catalogne, etc. Non, Britton, lui, est resté. Britton estimait qu'il valait mieux rester chez soi. C'était mieux d'être un artiste et de produire que d'aller en Espagne se faire canarder par les forces de Franco. Non, Owen, il est né en. Je m'en rappelle pas, il est mort le 4 novembre 18, donc il n'a pas pu faire la guerre d'Espagne. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu ce conflit, Owen a retrouvé de sa force symbolique de représentation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors on peut se demander pourquoi, pas à l'issue de la Première Guerre mondiale, il faut que le temps qu'une génération accepte. Et le seul poète qu'il y avait pour la Première Guerre mondiale comme poète, ben c'était Whitman. C'était le seul qui avait parlé d'une guerre civile et d'une guerre immense. Parce que, bon, il n'y avait pas de guerre, il n'y a pas eu de poète pour faire chanter la guerre des bourgs. Hein, un conflit qui a été dur pour les Britanniques. D'ailleurs, c'est là que le premier camp de concentration a apparu. Hein. Et qu'est-ce qu'il a inventé? C'est les Britanniques. Mais donc, on va chercher Whitman, parce que, puis en plus, chez Whitman, il y a aussi ce côté mystique
que les Britanniques, avec leur éducation religieuse et la place de Dieu, mystique sans être chrétien. Ce qui est très pratique, parce que tous ces agnostiques compositeurs, tous ces gens peuvent communier avec, avec aussi l'idéal démocratique. Donc, voilà. Et il y a tous les sentiments chez Whitman, y a, puisque j'en parle puisqu'il Bliss l'a utilisé, l'exaltation de ceux qui s'engagent en 14, la pitié pour les camarades qui sont morts, les angoisses du bivouac, là où se retrouvent des choses très oniriques. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait, la Première Guerre mondiale se passe et les années 36 arrivent pour qu'on commence à apprécier cette poésie de Sophie.
On a ça aussi dans le roman américain des années 20, ouais, avec Hemingway ou Stanley Fitzgerald.
Oui, absolument. D'autres questions?
Moi j'en ai une dernière. Est-ce que la note est. Est-ce que sais-tu si la note est, est traduite en anglais justement?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
À voir, ouais.
Il a fait des études. Je ne sais pas.
Et comment tu es tombé sur ce.
Je l'ai rencontré.
D'accord.
Je l'ai rencontré au. Un colloque autour de Wilfrid Owen. Je l'avais rencontré précédemment. Et là, il est venu avec ses dernières œuvres, donc La Nuit d'Ors, et puis ses traductions de Owen, l'édition de 2012. C'était un colloque en 2014 à Strasbourg, qui était autour de Peggy, donc les poètes qui meurent au début de la guerre. Donc Peggy, Owen, pas plutôt le poète dans la guerre. Peggy Owen et un autre Allemand qui s'appelle Stradler, j'en suis pas sûr. Donc j'ai rencontré Xavier et je lui ai acheté ses bouquins. Et je me suis dit que ça valait la peine de faire un travail là-dessus parce que c'était intéressant, il y avait de la poésie, il y avait très belle. Mais c'est pas d'une gaieté folle. Hein.
On a bien compris.
Le temps à Bruxelles est souvent couvert et porte à la mélancolie. Ah. Et les traversées de la Belgique en voiture à une 4L qui fonctionnent très mal dans le brouillard, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est bien que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Non, si vous avez l'occasion, c'est une belle découverte, je ne connaissais pas du tout, ça se lit très bien, c'est un joli style et une lecture vraiment agréable.
Et l'intrigue policière devient tout à fait secondaire.
Hein. Oui, mais derrière la colline, il n'y a pas...
Ah non, non, derrière la colline, c'est ce qui est sensationnel. Puis c'est l'appendice avec les photos, ouais. Et la dernière lettre, donc, notre ami Nigel Parsons, épouse une jeune femme qu'il a rencontrée lorsqu'il était à la guerre en 16, qui s'appelle Jacqueline, mais en fait qui préférait William Salter, donc son copain. Et elle découvre à la fin de sa vie, son mari est mort, et elle envoie une lettre à l'inspecteur du cerf. Donc il y a tout un jeu de double là-dedans qui est assez amusant, comme jeu d'esprit.
William est mort et Nigel se fait passer pour lui.
Oui.
Alors, est-ce que c'est parce qu'il est une gueule cassée et qu'il ne peut pas dire la vérité? On peut se poser la question parce que. Il n'est pas en mesure de parler.
Ouais. Je ne me souviens pas. D'ailleurs, la mort de William n'est pas indiquée comme telle. Hein.
Non.
Il y a échange d'identité.
Mais le père de William revient sur les lieux avec un groupe d'anglais et donc lui, à distance, qui est devenu jardinier.
Oui.
Pour faire comme William, reconnaît son père, mais ne va pas vers lui.
Ouais. Ouais. Jardinier, bon, le jardin du souvenir, etc. Et même à Dublin, il y a Garden of Remembrance, en haut de O'Connell Street. Oui.
Un moment, vous parlez d'amitié à nouveau entre Wilfrid Owen et un soldat, mais c'est quoi le nom du soldat?
Alors, je vais vous renvoyer à la biographie de Owen, qui est de Dominic Hibbard, avec deux B, Dominic avec un C à la fin, Hibbard, qui soulève le voile. Est-ce que
Il y a des chances que Wilfried soit tombé amoureux de Siegfried. C'est quand même amusant qu'ils aient des prénoms germaniques l'un comme l'autre. Et je pense que ce pauvre Sesoun en 14, il a dû en entendre sur son prénom. Et peut-être que c'est pour ça qu'il est devenu... c'est quelqu'un qui a la croix de guerre et qui jette la croix de guerre dans la Mersey et qui va écrire une lettre au Times en dénonçant les fauteurs de guerre et le gouvernement britannique, disant que tous ces gens-là n'ont qu'une chose en tête, c'est de prolonger la guerre, ce qui lui vaut d'être envoyé à Craig Lockhart, où il va rencontrer Owen. Il est sûr que Wilfried... on ne connaît aucune amourette de Wilfried pour une jeune femme. Voilà. Bon. Mary Cabot vous en dira plus que moi, mais c'est sûr que c'est une période de sa vie que son frère Harold, dans la biographie décrite de son frère, n'a jamais voulu parler. Et Sesoun n'en parle pas non plus. Je vous rappelle que l'homosexualité, depuis les procès d'Oscar Wilde en 1895, c'est un délit digne des travaux forcés. Donc, on n'est pas. En plus, c'est une chose dont on ne va pas parler. Ça aurait sali le sacrifice d'Owen, qui est pas un pacifiste, hein, qui a une attitude très courageuse. Hein. Et d'ailleurs, il a la croix de guerre. Et sa mère la reçoit le 11 novembre 18. Alors que son fils vient de mourir une semaine avant. Donc, depuis le procès d'Oscar Wilde, il y a des choses dont on ne parle pas. Connaissant ce que Britton a pu connaître de Sesoun par Morgan Foster, qui est homosexuel lui aussi, je ne vais pas dire qu'il y a une mafia, mais il y a une confrérie de gens qui parlent les uns des autres parce qu'ils ont besoin de se soutenir. Mais on n'a rien qui indique tout ça. Mais c'est que quand Britton prend des poèmes qui ont été revus, comme Owen a réécrit après avoir discuté avec Sesoun, il y a... voilà. Sesoun était très beau. Et vous avez vu la photo d'Owen. Elle a tout pour séduire quelqu'un. Et il était de petite taille, donc il ressemblait à Wolf Cherchen et à Pierce Dunkerley et à des gens d'une époque au Britain qui a une fixation sur les petits jeunes. Les gens qui ont moins de 20 ans. Voilà.
Il y a quelque chose d'ironique aussi dans leur prénom, parce que Wilfried et Siegfried, c'est Fried, c'est la paix. Hein,
ouais.
Donc la paix est inscrite dans leur
nom. Oui, la victoire de la paix.
Et il meurt à 25 ans.
Oui. Sesoun va perdurer. Il va rester à réécrire ses mémoires jusqu'à la fin de sa vie.
J'avais une petite question de précision sur une référence que tu as mentionnée sur Gloriana, parce que oui. Moi j'ai un souvenir d'un cycle de madrigaux à la gloire d'Elisabeth pour chœur, en fait, oui. Ou pour ensemble vocal. Oui. Et donc, est-ce que tu pourrais nous préciser un tout petit peu l'opéra que tu as mentionné, le principe de l'opéra et...
Donc, évidemment, je vais oublier le nom du compositeur qui a composé cette anthologie qui s'appelle The Triumphs of Gloriana, est un compositeur de l'époque élisabéthaine. Et donc, en 51-52, non, ça ne peut pas être ça, en 53, plutôt, à la mort de George VI, en 52, les Arts Council demandent au compositeur d'écrire de la musique à l'exemple de The Triumphs of Gloriana, de Thomas Morley. Voilà.
D'accord.
Et donc, des compositeurs vont faire des madrigaux qui vont s'appeler The Triumphs of Gloriana, pas The Triumphs of Oriana, à la gloire d'Elisabeth II. Il y a toute une évocation d'un nouvel âge élisabétain qui est pris en charge par, ne serait-ce que par le premier ministre Attlee, qui est à la Chambre des communes, bien qu'il soit débarqué en, après 51, va parler de cette nouvelle âge élisabétain. Donc, il faut oublier la guerre, hein, les privations, le rationnement, etc. Donc, on va monter cette nouvelle âge élisabétain en épingle. Et on va commencer donc à demander des compositeurs. Et d'ailleurs, Armel, on retrouve ça dans The Virgin in the Garden. Voilà, c'est l'évocation de ça. Un des personnages du roman Virgin in the Garden de Byatt écrit une pièce en vers qui va évoquer Elisabeth. Donc, on laisse son complexe là. Britten, lui, va écrire cet opéra, Gloriana, ou alors on revisite l'épisode des amours de Essex avec Elisabeth, mais on voit une reine. Qui nie sa féminité et qui n'est pas du tout ce qu'on pourrait attendre pour les cérémonies d'un couronnement. Et là aussi, Britten va commettre un crime de lèse-majesté. C'est une commande officielle qu'il fait approuver par la reine et le jour de la création, est démontée par la critique. Parce qu'on a une reine qui est hermaphrodite, qui hésite entre le masculin et le féminin et qui tue sa féminité au nom de la raison d'État. Alors qu'il y a tout un tas de ballets, de musique est composée, et Britten va faire une série de variations autour d'un thème de la Renaissance. Voilà, donc Gloriana. Et là, une des sources du livret de Gloriana, c'est un historien qui s'appelle Neil, qui fait paraître un bouquin en 32 sur Elisabeth. Mais il y a le Elizabeth and Essex de Lytton Strachey. Et je rappelle que Lytton Strachey, c'est celui qui démolit les idoles victoriennes dans Eminent Victorians. Et qui proclame que un des grands principes de l'historien, c'est justement de ne pas savoir et d'inventer comme il veut. Puisqu'après tout, pourquoi pas, le mensonge, ça nous permettre de connaître la vérité historique. Donc, il fait de Essex et d'Elisabeth de personnages ambivalents, ambigus, je ne dirais pas bipolaires, mais presque. Et ça ne pouvait pas plaire en 53. Hein. En 61, notre brave Foster, il va défendre le roman de D.H. Lawrence, Lady Chatterley, que l'édition Penguin font paraître alors qu'il est mis à l'index depuis 1927. Ça donne quand même une idée de la chape de plomb qui retombe sur la Grande-Bretagne après la guerre. Donc l'ambiance de moralité, tout ça. Et c'est ce brave Foster qui va défendre Lawrence alors que Lawrence avait été un goujat vis-à-vis de Foster. Donc bon. Voilà, Gloriana. Et cette chape de plomb, y a aussi... on est en plein macartisme aux États-Unis. Les Cambridge Four, ces jeunes intellectuels de Cambridge, Maclean et Burgess, sont partis en URSS. L'élite de la nation britannique, après Eton et Cambridge, qui s'en vont en URSS, après avoir été des taupes. Et d'ailleurs, le dernier Blunt a été découvert par Margaret Thatcher et dénoncé comme tel en 87 à la Chambre des communes. Donc, les homosexuels et les communistes, persona non grata. Voilà. Et Britten et Pierce sont convoqués à Scotland Yard les sbires du premier ministre de l'époque conservateur. Donc, et Gloriana s'évoque aussi le réseau, il y a des allusions au réseau d'espions qu'entretient la reine, qui d'ailleurs a une robe qui s'appelle la robe aux yeux et aux oreilles. Son service secret. Il y a des catholiques, hein, encore les jésuites qui cherchent à rentrer en Angleterre. Donc ceux-là aussi, il faut les éliminer. Donc, bon. Et Neil lui-même convient, parce que sa biographie est rééditée évidemment au moment du couronnement, que cinquième colonne, idéologie et tout ça, guerre froide, ça n'existait pas au temps d'Élisabeth, mais que c'était parfaitement justifié qu'on aurait pu utiliser ces mots-là à l'époque d'Élisabeth. Est-ce que je réponds à ta question ?
Parfaitement. Avons-nous d'autres questions ?
Bon, eh bien, écoutez, c'est très gentil d'être venu.
Merci à tous pour votre présence et votre...